Bonjour à tous, chers auditeurs d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et nous accompagne dans les étapes de la vie. C'est une Chantal Doré, heureuse et vaccinée au micro de cette 47e émission qui plonge vraiment au cœur de notre mission, l'intergénérationnelle. Du 23 au 29 mai 2021, c'est la Semaine québécoise intergénérationnelle. Et si vous nous suivez depuis le tout début, vous vous rappelez peut-être que nous avons reçu à cette antenne Fatima Ladjadj d'Intergénération Québec pour la toute première émission d'Au fil du temps. Fatima sera donc de retour pour nous parler de la programmation 2021, notamment une activité qui est un peu au cœur de la semaine, qui touche une préoccupation qui rejoint de nombreuses générations, soit toute la question du climat. Donc, l'une de ces activités s'appelle « Génération climat, agir ensemble pour l'environnement ». Évidemment, dans la programmation 2021, probablement qu'on retrouvera certainement plusieurs activités qui touchent les loisirs, qui est souvent une manière de faire connaissance entre générations. Je vais tenter également de soutirer des confidences et peut-être des indices à Fatima sur les gagnants du concours de la semaine intergénérationnelle. Donc, parlant de loisirs, les loisirs, ce sont un peu des respirations dans nos semaines bien chargées lorsque l'on est sur le marché du travail actif. Et lorsqu'on atteint l'étape de la vie qui est la retraite, ils deviennent au cœur de notre quotidien, soit en tant qu'identité ou même de fonction utilitaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux concept de la société des loisirs dont on nous avait parlé dans les années 70. C'était en fait un concept de sociologue né dans les années 40, après l'expansion des glorieuses années 30, qui ont été repris après par certains auteurs dans les années 50-60 et popularisés davantage dans les années 70. Mais on doit vraiment remarquer que si le travail qui était vraiment très prenant autrefois physiquement, maintenant il est très prenant mentalement. Donc nous allons parler du loisir, mais dans sa fonction utilitaire. Donc comment on peut renouer toute la fonction créative, toute la fonction respiration, la fonction identitaire du loisir à la fonction vraiment identitaire. Nous allons donc parler tout juste après cette chanson qui est fort bien choisie, La Société des loisirs, avec une entrepreneure culturelle diplômée en animation et recherche culturelle qui a créé une entreprise sociale qui s'appelle À la Viva, dédiée à l'animation culturelle et aux loisirs pour les aînés. Vous allez faire la rencontre aussi peut-être avec Barbara, qui est un prototype de robot utilitaire qui relie les fonctions de loisirs et d'utilité, et avec en fait toutes sortes d'initiatives vraiment intéressantes qui relient technologie, loisirs et utilité. Donc, avant de rejoindre au micro André Pelletier, car c'est le nom de notre invité, je vous offre la Société des loisirs d'Alpha Rococo.
société des loisirs. Et chaque année c'est encore pire. J'ai besoin, je crois, d'une pause. Mais j'ai trop besoin de ma dose. J'enlèverai tellement ce chapeau. Je m'effacerai du tableau. Je retournerai en arrière. Balancerai tout haut dans les airs. Je suis pris comme un agneau dans le nœud coulant de l'assaut. Je suis écrasé par l'assaut. Vraiment écrasé par l'assaut. Car je vis dans l'assaut, ce société des loisirs.
C'était la Société des loisirs d'Alpha Rococo. Pour discuter de cette fameuse Société des loisirs, de l'évolution des loisirs et surtout de comment leur fonction, comment les loisirs peuvent servir à améliorer la qualité de vie des aînés et toutes sortes de gadgets technologiques qui vont réussir autant à rejoindre loisirs et fonctions utilitaires, je rejoins une personne qui a été décrite par une dame qui s'appelle Christelle, 61 ans, comme celle qui a inventé cela. C'est un être sensible aux besoins de gens comme nous. Alors j'accueille André Pelletier, qui est entrepreneur culturel. Elle a créé à La Viva, qui est une branche de Maelstrom Créatif. Sa grande entreprise et cette branche est consacrée au développement de produits culturels à destination des aînés. Bonjour André.
Bonjour.
Ça fait longtemps que je veux vous parler parce que c'est fou toute l'innovation que vous déployez là, pour créer toutes sortes de plateformes, de systèmes inventifs et j'ai envie de vous entendre nous raconter là, qu'est-ce qui vous anime à créer toutes ces belles innovations.
Oui, ben je dirais que ma motivation, c'est vraiment de favoriser une vie heureuse et le vieillissement actif. Alors, c'est vraiment le point de départ. Et je crois très profondément que la culture, hein, dans son sens le plus large, nous permet donc de nous mettre en action et en relation avec les autres, de travailler nos neurones, de faire vibrer notre cœur, de nous éveiller à des situations que l'on vit pas personnellement, mais qui nous permettent de mieux comprendre notre monde. Alors, c'est ce qui m'anime, donc, devenir des meilleures personnes et une meilleure société.
C'est une très belle et noble mission. Et je citais d'entrée de jeu Christelle, cette dame de 61 ans qui a eu, je crois, qui a fait la rencontre de Barbara. Donc, parlez-nous de Barbara.
Oui, alors, on avait amorcé un virage technologique avec l'intention d'offrir une évasion aux personnes qui vivaient dans les CHSLD, notamment, que pendant 15 minutes, une demi-heure, ils ne soient plus dans leur chambre, mais qu'ils aient l'impression d'être au cœur d'un musée ou dans un parc naturel. Donc, vraiment, cette idée-là d'évasion, la COVID est arrivée et qui était le plus pressant, c'était de créer des nouveaux liens sociaux, des nouvelles façons d'entrer en relation avec les autres, hein, sans qu'il y ait la présence et la présence physiquement dans les lieux. Et c'est là donc l'idée des robots de téléprésence est venue. Alors, ce qui est formidable des robots de téléprésence, c'est que on les place dans un lieu, dans un CHSLD par exemple, et on en donne le contrôle à quelqu'un qui est à l'extérieur.
D'accord.
Alors, ça peut être un guide au musée de la civilisation, ça peut être un musicien dans son studio à Limoilou, ça peut être une artiste peintre en Gaspésie ou bien Christine, justement, qui anime cet après-midi en direct de son champ dans Portneuf avec ses chevaux.
Ah,
alors,
d'accord.
Ces personnes-là prennent le contrôle du robot à distance avec leur ordi ou avec leur iPhone, iPad, et là, se retrouvent dans le CHSLD, donc à Montréal, Québec. Mm-hmm. Et là, ils le déplacent. Donc, en arrivant, ils parlent avec la responsable des loisirs ou encore une personne sur place qui va les guider vers des résidents. Et là, donc, ils rentrent dans la chambre. Puis, bonjour, M. Tremblay, je viens vous voir. Avez-vous envie de jaser? Et là, rentre avec M. Tremblay, puis comme c'est comme un zoom, hein, alors l'animateur a son visage dans l'écran, et ben, l'aîné se met à jaser avec lui, et vraiment, l'aîné oublie que la personne n'est pas là physiquement, et on a entendu plein de fois, « Voulez-vous un café? »
Ah oui!
Oui, c'est formidable. Alors là, dans le blanc des yeux, avec le sourire, parce que là, on n'a pas besoin de masque, hein, on est à distance, ben là, on peut jaser. On peut jaser d'une œuvre d'art, d'une pièce de musique. On peut chanter ensemble. Donc, c'est un véritable contact d'humain à humain. Puis, on a donné des robots, des noms d'artistes à nos robots. Mm-hmm. Effectivement, on a Antoine de Saint-Exupéry, Barbara, Claude Lafortune. On a aussi Daphné Dumaurier et Alice Roby.
Ah, d'accord. Et ils ont chacun leur fonction particulière ou c'était simplement un trait de...
Est-ce que vous êtes toujours là?
Oui, oui, je vous écoute.
Oui, c'est parfait, excusez, parce qu'on a manqué d'électricité. Et puis, ma collègue est inventée. Je vois du direct.
Est-ce que les robots s'éteignent dans ce temps-là?
Ben, en fait, ils ont des piles. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Ils ont des piles, mais si le Wi-Fi ne fonctionne pas, ben là, ça ne marche pas.
Mais la différence avec une personne humaine, c'est que ou la différence avec rencontrer la personne sur un iPad, c'est que on voit le visage de la personne, mais le robot se déplace. Donc ça donne une impression de mouvance ou de rencontre plutôt que simplement faire une connexion sur un iPad.
Et pour l'aîné, ben, il n'y a aucun frein technologique. Il accueille la visite comme si quelqu'un rentrait avec ses pieds puis il jase avec elle. Mm-hmm. Et le robot, comme il est contrôlé de l'extérieur, ben, ça soulage le personnel qui n'a pas à transporter le iPad d'une chambre à l'autre. C'est la personne à l'extérieur qui contrôle le robot.
Donc, le fait avancer d'une chambre à l'autre.
Exactement, exactement. Fait que c'est super facile. Et là, ben, y a des habitudes qui vont se créer aussi, des affinités entre des personnes. Et l'idée, là, c'est vraiment, non pas des spectacles, mais c'est des rencontres. Mm-hmm. Hein? On parle de médiation culturelle. Oui. C'est un échange entre deux personnes avec un sujet culturel. Donc, on peut tout simplement jaser, comme on peut aller aussi avec des activités de création. Hein, l'animateur pourrait dire, bon, on va prendre papier-crayon, on va dessiner. Vous allez me dire quoi dessiner sur le tableau. Donc, on est dans l'échange, l'interaction.
Et ce que j'ai compris aussi, c'est que là, vous êtes allé encore plus loin pour inventer un robot compagnon, pour vraiment permettre peut-être davantage le maintien à domicile. Celui-là, il s'appelle Cutie, je crois.
Oui, bien, j'ai aucun mérite, sauf celui de l'avoir trouvé.
D'accord.
Et de l'avoir fait venir au Canada. Puisque ça a été développé par une entreprise française. Et j'ai pris le temps de discuter avec les créateurs de ce Cutie-là. Et ils sont vraiment dans une démarche d'innovation ouverte, de tests avec des professionnels, avec les aînés eux-mêmes. Ils sont en constante évolution. Donc, côté valeurs, on se rejoignait. Et j'ai maintenant quelques exemplaires du Cutie ici, qui est intéressant parce que là, il se contrôle également par le contrôle vocal. Donc, l'aîné peut passer des commandes au robot, comme par exemple, appelle Chantal. Alors là, il va ouvrir une conversation vidéo. Chantal va recevoir la demande de connexion. Puis là, l'aîné va pouvoir jaser avec son ami, son enfant. Et d'un point de vue de sécurité, ben l'enfant qui pourrait être préoccupé, par exemple, que le parent oublie de fermer les ronds de poêle, ben, pourrait prendre le contrôle du robot à distance.
Pour aller vérifier,
c'est ça, exactement.
Chose que, par exemple, une Siri pourrait, si on pourrait donner une commande aux solutions de maison, on pourrait demander à Siri de m'appeler, mais mais Siri ne peut pas aller vérifier, à moins que notre four soit connecté, bien sûr, là, soit un objet connecté. Ouais. Mais j'ai même entendu que Qt pourrait aller vérifier l'état des aliments dans mon frigo.
Ben, c'est pas lui comme tel, comme le proche qui va accompagner l'aîné en maintien à domicile au réfrigérateur. Et là, donc, l'enfant va pouvoir dire, bon, ben, maman, papa, montre-moi ce que tu as dans le réfrigérateur. Donc, l'aîné va pouvoir montrer, oh, la pinte de lait est à moitié, parfait, j'en ajoute une sur la liste. Oh, les croutons, il y a du bleu dessus. Non, ça, il faut pas que tu le manges. qu'est-ce que ça te prend cette semaine? Et donc, l'enfant pourrait faire l'inventaire avec son parent de ce qu'il y a, planifier les repas avec son parent. Bon, ben parfait. Alors, tu as ça maintenant avec macaroni demain, puis mercredi, pâté chinois. Puis là, je vais t'acheter des plats préparés pour les prochains jours. Et l'enfant pourrait, à distance, donc faire la commande d'épicerie et faire livrer. Alors ça permet à Qt, ce contact-là à distance, permettrait à des enfants, par exemple, qui vivraient à Vancouver ou à Paris, de visiter quotidiennement leurs parents pour des petites tâches qu'ils pourraient pas faire au téléphone, encore la prise de médicaments également. Bon, ben maman, à 8h, on prend ton médicament, donc je vois dans l'écran, je peux guider ma mère. Oui, tu prends l'appareil, tu tournes, puis je m'assure qu'elle a bien pris son médicament.
André, je vous propose qu'on aille en musique avec la chanson des loisirs. C'est le titre de notre pièce musicale. Ensuite, il y a plein d'autres projets que vous avez réalisés au sein de À la Viva. Et parlez aussi de ce projet, en fait, de cette approche de gris-culture. Puis je suis curieuse aussi de vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce concept de la société des loisirs, comment ça a évolué. Donc, on se reparle dans quelques instants.
Camarades dans la triste usine, fallait trimer hier dès le point du jour. Au rythme obsédant de la machine, le dur travail, c'était tous nos amours. Pris tout entier dans la vaste chaîne et répétant son geste jusqu'au soir. À quelle était longue la semaine, sans débrayer, sans repos, sans espoir.
Mais aujourd'hui, voici la vie meilleure, l'usine n'est plus la prison. On peut rêver d'air pur et d'horizon, et de bonheur dans la maison.
Hardi les gars, voici les carpenteurs, à nous l'espace au cours du bel été. Hardi les gars, car la vie est meilleure au bon vent de la liberté. Hardi les gars, car la vie est meilleure au bon vent de la liberté.
Hier encore notre cœur en déroute, désespéré de jamais voir le ciel. Aujourd'hui les gars, prenons la route, qu'il est joyeux ce matin le réveil. Nous aussi nous irons par les plaines, par les forêts, les fleuves et les monts. Et nos corps délivrés de leurs chaînes respireront l'air pur à plein poumon.
Car aujourd'hui, voici la vie meilleure, et nous poussons notre chanson. C'est en chantant que nous travaillerons, un nouveau monde bâtirons.
Hardi les gars, voici les 40 heures, nous y gagnons la force et la gaieté. Hardi les gars, que la vie est meilleure au bon vent de la liberté. Hardi les gars, que la vie est meilleure au bon vent de la liberté.
Hier nous étions des bêtes de somme, mais à présent, messieurs, c'est bien fini. Nous voici redevenus des hommes, il a suffi pour cela d'être unis.
Aujourd'hui fini les beuveries, le torboyau pour noyer son dégoût. Nous voulons embellir notre vie et pouvoir dire à qu'on est bien chez nous. Il y a de la joie déjà dans nos demeures, on entend monter des chansons.
À nous les jeux, les fleurs, le vert gazon, avec les gosses et la Suzon.
Hardi les gars, vive les 40 heures, pour les avoir nous avons bien lutté. La production demain sera meilleure grâce à la Sainte Liberté. La production demain sera meilleure grâce à la Sainte Liberté.
C'était la chanson des loisirs qui est un beau bouquet d'artistes variés où on, justement, on parle de la semaine de 40 heures qui nous rendra plus productifs et autres. Alors André, je suis curieuse de vous entendre un peu de votre spécialité. Comment vous trouvez que ça a évolué la notion des loisirs et ce fameux concept de société des loisirs qu'on nous promettait?
Oui. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que le loisir s'inscrit maintenant dans... c'est comme le bouquet de complet de notre personnalité. Donc, oui, on a notre travail, mais on a aussi différentes passions. Et ces loisirs-là, c'est vraiment le reflet de notre personnalité. Oui. Quand on parlait au début de la société des loisirs, c'est la liberté de se libérer donc du temps de travail pour avoir du temps de repos. Alors qu'aujourd'hui, on le voit non pas comme du temps de repos, mais comme du temps pour se construire autrement, je dirais, pour s'assurer une vie heureuse longtemps. Donc, on a commencé par se doter des infrastructures dans les années 60-70, là, les musées, les salles de sport, tout ça. Et donc, on est passé du matériel à, je dirais, l'humain avec l'animation, la médiation culturelle, où on a commencé à prendre soi-même le pinceau, apprendre à créer par soi-même, pas juste être spectateur, avec la démocratisation de la culture. Et puis, pour moi, les loisirs, c'est une façon de se mettre en action et en relation avec d'autres personnes. Vous avez précédemment, dans une autre émission, parlé de l'ikigai.
Oui.
Donc, il y a quelque chose là-dedans. Et puis...
Vraiment un concept là, qui plutôt que dire « je prends ma retraite pour faire des loisirs », c'est vraiment comme aller chercher ce qui nous connecte, ce qui est relié à notre identité, différentes façons de s'exprimer.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, comme disait une de mes invitées précédemment, je cherche à me faire des amis de différents âges.
Oui.
Ben, par les loisirs, c'est un bon moyen. Être dans une chorale, aller au musée, participer à une activité, ça fait rencontrer des gens qui n'ont pas le même âge que nous, qui n'ont pas le même bagage socio-culturel, et puis ça nous enrichit comme personne. Et dans les secrets, je dirais, pour vieillir harmonieusement, et effectivement de pouvoir développer sa personnalité, pouvoir développer ses talents, être actif intellectuellement, sans travailler nos neurones, c'est essentiel. Travailler notre corps, donc ça peut être par la danse, par la course. Pour certains, la course, c'est un loisir méditatif. C'est mon cas d'ailleurs.
Oui, je partage cette passion qui est à la fois une fonction utilitaire et un loisir, en effet.
C'est ça, c'est comme si on a notre temps de travail où il faut être productif. Et puis là, après ça, on passe dans le mode, par exemple, on part courir ou aller voir une pièce de théâtre. Et là, c'est comme si nos neurones, un peu comme quand on dort, se rebrassent et puis il y a des nouvelles connexions qui se font. Puis la veille, il y a des choses qu'on croyait pas possibles, des problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et puis hop, après cette activité-là, il y a des choses qui se sont placées parce qu'il y a... Il y a des nouvelles perspectives qui sont apparues.
J'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont compétitifs ou qui veulent être productifs même dans leurs loisirs. Je trouvais que c'est un paradoxe intéressant.
Oui, effectivement, avec les objets connectés qui nous permettent de contrôler combien de temps on dort, combien de temps on bouge, combien de temps... c'est bien parce que ça peut permettre d'instaurer des bonnes habitudes. Je vais méditer 10 minutes par jour, donc j'ai mon rappel. Tu sais, il y a quelque chose de bien là-dedans. En même temps, quand ça devient une obligation, ça peut créer de la pression, de l'anxiété. Je dirais, un peu comme l'alimentation, hein. C'est bon d'avoir dans son assiette de toutes les couleurs et de pouvoir partager également avec les autres. Avec la pandémie, on a appris à partager différemment peut-être. Et là, les perspectives nouvelles d'ouverture vont, je crois, être très, très stimulantes parce que on aura pris pleinement conscience de la richesse d'être ensemble à partager une activité avec d'autres personnes, ne serait-ce qu'assister à un concert avec les vrais musiciens puis des personnes qu'on applaudit toutes en même temps.
André, si on veut voir l'ensemble de vos projets, on peut aller sur votre page Facebook, je crois, à La Viva?
Oui, exactement, page Facebook ou encore le site Internet à laviva.com. Alors, vous verrez que là, on a vraiment une tangente technologique là, avec notamment les robots de téléprésence. Donc, on est actuellement présent dans plusieurs résidences pour aînés CHSLD. On va amorcer la section des aînés à domicile.
Et puis on va inviter nos auditeurs à aller découvrir toute l'effervescence de votre technologie animée par l'amour des aînés. Merci d'avoir été avec nous.
Ben, c'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, nous parlerons à nouveau, nous poursuivrons notre discussion sur les loisirs, car c'est souvent la manière de créer des liens entre les générations, avec Fatima Ladjadj, la directrice d'Intergénération Québec que nous avions reçue à la toute première émission, que vous pouvez réécouter sur canalem.vusezvoix.com, ainsi que sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify. Je vous rappelle que nous sommes également en direct le jeudi midi à CKVL. Je vous offre maintenant Trop jeune ou trop vieux de Frida Bocara. c'était Frida Bocara avec « Trop jeune ou trop vieux ». Ce à quoi je répondrai « Non, nous ne sommes ni trop jeunes ni trop vieux, mais nous sommes des gens qui veulent créer des liens, une connexion pour vivre ensemble, une rencontre, un moment présent, imaginer des projets. » Et il y a un organisme dont c'est la spécialité, imaginer des projets intergénérationnels et soutenir les organismes qui veulent explorer l'intergénérationnel. Nous avons eu le plaisir de recevoir sa directrice à la toute première émission de d'Au fil du temps, Fatima Ladjadj, et elle est de nouveau avec nous aujourd'hui. Bonjour Fatima.
Bonjour Chantal.
C'est un plaisir de vous recevoir 46 semaines plus tard.
Ah, ben, vous avez bien compté. Je sais que c'était l'an dernier.
Oui, c'est ça. Donc, nous serons du 23 au 29 mai dans la semaine intergénérationnelle. Et je sais que vous avez toute une programmation qui a été élaborée. Donc, j'ai envie de vous entendre, là, nous choisir peut-être quelques activités intéressantes auxquelles nous pourrions participer.
Oui. Donc, j'aimerais juste signaler que donc, la Semaine québécoise intergénérationnelle, c'est vraiment une campagne annuelle nationale de sensibilisation à l'importance des liens intergénérationnels. Oui. Et donc, c'est aussi une occasion unique de promouvoir et célébrer ces moments précieux de retrouvailles et d'activités intergénérationnelles. Mmh. Et c'est aussi un moment aussi où on sensibilise un peu les citoyens lambda et même tous les acteurs qui s'intéressent à la question pour réfléchir à certaines problématiques. Pour revenir à la semaine, parmi les activités, vous le savez que nous avons un concours qui a été ouvert. Et puis, le concours, ce qu'on a fait, c'est que il a été ouvert en novembre. Les résultats, la date butoir du dépôt, c'était en février dernier. Mm-hmm. Donc, il y a eu les projets. On a reçu 75 projets en liste. Et donc, le comité a évalué tous les projets. Donc, et les 15 finalistes des 5 catégories ont été dévoilés durant la semaine du 2 mai. Et le dévoilement des projets lauréats se fera durant la semaine du 23 au 29 mai. Et la première journée sera plutôt le 24 mai. Donc, on dévoilera le lauréat. Donc, vous savez qu'on a 6 catégories. Mm-hmm. On a donc la catégorie artistique, littéraire, communautaire et aussi transmission ludique. Et puis, on a aussi la catégorie coup de cœur. Donc, les lauréats seront chaque jour dévoilés par catégorie.
Voilà. Pouvez-vous nous parler tout de même un petit peu des finalistes? Évidemment, on ne pourra pas parler des 15, mais nous donner une idée concrète des types de projets retenus comme projets finalistes.
Écoutez, je peux vous donner par exemple un projet dans la catégorie artistique. Mm-hmm. C'est par exemple des retraités qui sont intégrés à une classe en ligne de 5e année.
D'accord.
Ils enrichissent les travaux et les échanges écrits en proposant des opinions, des photos et des idées d'activités pédagogiques en échange de soutien et de conseils de la part des élèves en ce qui concerne la technologie. Donc, vous savez, c'est un échange win-win quand même.
Absolument, donc, absolument.
C'est ça. Donc, en discutant avec les jeunes, les retraités brisent leur isolement tout en augmentant leur estime, leur sentiment d'utilité et leur estime de soi. Je peux vous citer un autre autre projet dans la catégorie, par exemple, communautaire. Donc, il s'agit d'un projet qui s'appelle « Cultiver le plaisir ». Jeunes et moins jeunes, tous au jardin, c'est le titre du projet. Mm-hmm. En fait, qui a été initié par le comité de développement Saint-Brigeois en Montérégie. Donc, ce sont des bénévoles de tous âges qui se sont réunis dès le printemps pour aménager des plates-bandes, construire un cabanon, déjardiner, élaborer un système d'arrosage en vue de la mise en place d'un jardin pédagogique intergénérationnel. Donc, il y a de l'apprentissage là-dedans aussi.
Transmission des savoirs.
Exactement, il y a de la transmission de savoir. Donc, il y a des animations horticoles et culinaires qui ont été offertes par des aînés aux jeunes participants. J'ai aussi une autre activité artistique que je peux vous citer, c'est une bibliothèque. Pour vous dire que nous, c'est pas seulement C'est des organismes communautaires, c'est des individus qui ont un lien avec l'intergénérationnel, et ça peut être des institutions comme une bibliothèque ou une MRC. Là, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une bibliothèque publique de Montréal-Ouest qui a monté une pièce de théâtre entièrement en ligne entre aînés et jeunes.
Wow.
Donc, c'est quand même pour vous dire que ce qui nous a vraiment épatés durant cette édition qui se déroule quand même dans un contexte assez particulier, celui de la pandémie, c'est que nous avons été épatés un peu par l'inventivité et la créativité des personnes qui ont initié des projets. On avait peur, c'est sûr qu'en termes de nombre, par rapport à l'habitude, on a d'habitude une centaine, une moyenne de centaines de projets, mais cette année, on a eu 75.
Quand même 75, hein?
75, effectivement, mais en plus, il y a beaucoup de création là-dedans. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça prouve qu'on est loin un peu des activités où, par exemple, on fait juste, on prépare des mets ensemble. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, parce qu'il faut dire que dans le concours, on prend toutes les activités qui nous arrivent. Mm-hmm. Et l'avantage, c'est que l'avantage de la semaine et du concours, c'est un peu de mettre en valeur toutes les initiatives, quelle que soit leur ampleur.
Mais justement, le fait que les jeunes soient plus férus de technologie, et là, on était dans un contexte où on avait besoin de la technologie pour provoquer ce rapprochement, ça a dû être utile.
Exactement, c'est ça, c'est qu'on a été épaté par les idées de projets. Il y a eu, par exemple, des enregistrements et des publications d'un balado intergénérationnel, ça aussi. Ça peut être aussi même, par exemple, préparation des repas de mets et puis que les jeunes donnent aux aînés qui vivent seuls. Donc, c'est pas ce qui manque. Ça aussi, ça peut être aussi des scénettes jouées par les enfants devant une résidence ou devant des aînés assis à distance, à l'extérieur. Donc, on avait... C'est sûr que ce que la pandémie nous a appris, c'est qu'elle nous a appris au moins une chose, que les liens sociaux ont vraiment leur importance et leur pertinence. Parce que vous le savez, comment est-ce que le problème de l'isolement a été exacerbé pendant cette pandémie, et puis qui n'a pas seulement affecté les aînés, mais ça a aussi affecté les jeunes. Les jeunes qui, eux, n'ont pas tellement ce pouvoir de résilience assez élevé pour pouvoir y remédier, comme pour les aînés. Mais n'empêche que ça a touché tout le monde, et puis le problème de santé mentale, vous le savez, on est en train d'en parler un peu partout.
Et puis, donc, il y a un volet santé mentale aussi, tout qui est relié autour de l'éco-anxiété. Et je sais que vous avez une activité qui est assez importante dans le cœur de la semaine, là, Génération Climat. Est-ce que vous pourriez m'en parler?
Oui, c'est ça. C'est que, comme chaque année, nous, ce qu'on fait, c'est que, comme je vous ai dit, c'est une semaine de sensibilisation et de mobilisation, parce que chaque année, on organise un forum en portant sur une réflexion sur une thématique particulière. Cette année, nous avons invité des acteurs, des experts, des chercheurs et même des citoyens à réfléchir ensemble sur la problématique du climat. Génération Climat, agir ensemble pour l'environnement. Et l'événement, il aura lieu du 25 au 27 mai prochain, pendant la semaine. Et pourquoi est-ce qu'on a pensé à cette thématique? Parce que nous nous sommes posé la question, comment unir les générations face à l'urgence climatique et comment est-ce qu'on peut lier les causes environnementales et intergénérationnelles? Ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers cette rencontre, Intergénération Québec souhaiterait proposer une réflexion sur les moyens d'agir ensemble, pour trouver des solutions et faire de l'intergénérationnel, un levier de lutte contre les changements climatiques. Donc, et cet événement sera réparti parce que nous, c'est un événement que nous devions faire tenir l'an dernier. On avait loué donc l'université de Laval à Québec et tout, mais on l'a pas pu le faire. Mais on le fait en ligne, donc c'est une première pour nous organiser un forum en ligne. Donc, il sera réparti. Ah oui, complètement.
Avez-vous de l'aide de jeunes pour ça?
Oui, on a demandé l'aide de jeunes qui sont très habiles avec les technologies, mais il faut dire que mon équipe aussi n'a pas ménagé ses efforts aussi pour explorer toutes les possibilités et optimiser l'utilisation des plateformes. On prend particulièrement Zoom, c'est sur celle-là qu'on va travailler. Donc, comme je vous ai dit, l'événement, il sera virtuel, réparti en trois demi-journées. Le 25 mai, ce sera un dialogue intergénérationnel entre deux militants, un jeune et un aîné, sur les regards qu'ils ont actuellement sur la problématique du climat. Donc, le dialogue, il sera animé par Martine Lagacé, qui est professeure titulaire au département de communication de l'Université d'Ottawa.
D'accord.
Et le dialogue sera entre M. André Bellil, qui est cofondateur et président de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, et un jeune qui est Marwan Joundi. Mm-hmm. C'est un ancien co-porte-parole de la planète s'invite à l'université.
Oui.
Donc, ce dialogue, en fait, il va nous permettre de savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre les préjugés que les uns ont envers les autres, et surtout aussi de rassembler davantage les générations autour quand même de ce problème qui est planétaire. C'est ce que je vous ai dit. Donc, on veut se réfléchir aux solutions de lutte de façon collective à la lutte qu'on peut faire ensemble contre les, et puis solidairement, bien sûr. On a donc le mercredi 26, nous avons invité 4 porteurs de projets en plus de l'animateur.
D'accord.
Donc, nous avons donc les porteurs de projets autour d'une table. Donc, qui sera animé par M. Étienne Berthold, qui est professeur agrégé au département de géographie et directeur de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société de l'Université de Laval. On va donc discuter, il sera question de la façon de conjuguer les actions intergénérationnelles et aussi environnementales. En fait, ce qu'on souhaiterait à travers ce débat, c'est qu'on aimerait connaître les défis qui entourent les actions environnementales et intergénérationnelles à la fois, les effets palpables des expériences, et puis aussi de toutes les expériences environnementales et intergénérationnelles qui sont innovantes et qui existent au Québec, et aussi les conditions favorables à leur expérimentation et leur déploiement. C'est pour ça qu'on a invité 4 porteurs de projets. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous les citer.
Le temps file rapidement. Puis moi, j'étais curieuse peut-être de vous entendre, parce qu'on parle d'innovation, mais souvent, j'ai l'impression qu'il y a des activités qu'on faisait autrefois qui étaient des activités de survie économique et que maintenant, on le voit comme des innovations, mais c'était des activités qu'on, tu sais, on parle de repriser, de recycler, de faire des conserves, d'avoir moins d'emballage, tout le phénomène de faire soi-même. Il y avait un objectif d'entraide et de survie autrefois. Ça servait l'environnement.
Effectivement, on est même en train de penser à comment est-ce qu'on peut vivre simplement comme autrefois, pour qu'il y ait pour réduire notre empreinte écologique, vous le savez. Et d'ailleurs, parmi les projets, par exemple, on a un projet qui présentera donc un projet d'agriculture urbaine de HEC Montréal, qui est en fait un laboratoire d'expérimentation des techniques en permaculture et des principes de gestion responsable. C'est un modèle quand même novateur. Pourquoi? Parce qu'il implique la communauté étudiantine au sein d'un programme suscitant l'échange de savoirs intergénérationnels pour démarrer des projets d'agriculture urbaine dans les écoles primaires.
Fatima, à quel endroit on peut aller pour en savoir plus sur l'ensemble des projets?
Écoutez, d'abord, il faudrait peut-être s'inscrire d'abord à notre forum pour en savoir davantage, puisque les personnes porteuses de ces projets-là vont être là pour en parler en long, en large et en travers.
Donc, sur votre site Intergénération,
pour plus de détails sur notre site, je peux vous donner le lien. Normalement, c'est intergénérationquebec.org.
Parfait. On va inviter nos auditeurs à aller visiter. Excusez-moi. Puis votre page Internet. Je vais donner les références en toute fin d'émission, Fatima. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se tient au courant. J'ai très hâte de voir qui seront les grands gagnants du concours de la semaine. Merci beaucoup, Fatima.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.
C'était une pièce assez perturbante et différente de ce qu'on peut entendre. C'est Maurice Bolduc en régie qui m'a fait découvrir « Tenant mon frère » de Cédric Dain-Lavoie. Et c'est vraiment, comme on le voit, un mélange de vieilles chansons avec des instruments plus nouveaux, plus contemporains. Donc, un bel exemple de pièce intergénérationnelle ou d'influence intergénérationnelle. Je vais vous parler de comment notre cerveau traite les émotions. Il y a cette réponse-là pourrait aider à lutter contre l'épidémie de solitude, écrit l'auteur principal d'une étude qui est le Dr Jyoti Mishra, qui est directeur des NEAT Labs et professeur au département de psychiatrie de l'Université de Californie à San Diego. L'étude qui a été publiée dans Cerebral Cortex révèle que des régions cérébrales spécifiques réagissent de manière opposée aux émotions en fonction des niveaux de solitude et de sagesse. Bon, j'essaie de vous décortiquer tout cela, c'est quand même un peu complexe. Lorsque les visages expriment de la colère, cela ralentit considérablement la réponse cognitive chez les participants les plus solitaires. Donc, cela suggère que les personnes les plus solitaires accordent plus d'attention aux émotions négatives, telles qu'un visage en colère. À l'inverse, lorsque les visages expriment le bonheur, cela accélère la vitesse de réponse cognitive des participants, en particulier ceux qui ont été évalués comme les plus sages. Donc, les participants à haut niveau d'empathie répondent plus vite lorsqu'ils voient en arrière-plan des visages heureux ou lorsqu'ils perçoivent des émotions positives. Donc, ça suggérerait l'idée que la sagesse peut servir de protection contre la solitude. Et si moi, je fais du pouce sur cette étude quand même très scientifique, j'aurais tendance à penser que plus on développe de la sagesse, plus on développe de l'amour-propre, plus on est capable de voir dans la solitude quelque chose qui n'est pas souffrant, mais quelque chose qui est au contraire plus nourrissant, qui nous permet vraiment de se reconstruire, de recharger notre batterie et d'ensuite d'être au meilleur dans nos relations. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie, souvent quand j'étais en relation, de prendre des moments, des week-ends de solitude comme ça pour faire le tri entre ce qui m'appartient, les émotions qui m'appartiennent à moi, celle qui appartient aux autres. Et j'ai toujours constaté que je devenais meilleure dans mes relations parce que j'avais pris un temps de solitude. Donc, sans doute que cette sagesse-là a amélioré mes relations. Je pourrais vous mettre le lien de l'étude sur la page Facebook de l'émission Canalem à Vues et Voix. Voici maintenant La Javanaise, une réinterprétation d'un grand classique de Gainsbourg.
J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir au vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps de nous. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, mais vous, à l'amour, j'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant là. Javanaise, nous aimions le temps de nos chansons. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu. Mon amour, ne vous déplaise. En dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson.
C'est un classique de Gainsbourg, la javanaise, réinterprété par André Manoukian au piano et Mélodie Gardeau, qui a appris le français. Excellent pour nos capacités cérébrales. Merci à André Pelletier, à laviva.com, à Fatima Ladjadj d'intergénérationquebec.org. Merci à nos collaborateurs Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche, Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, travailler en famille, père et fils, avec Hugo Bouchard et Daniel Beaulieu de Café Expert. Et j'ai tellement hâte à la rencontre avec David Goudreau, auteur, slameur et porte-parole du mouvement Santé mentale. Alors cette semaine, tiens, on essaie de tester un nouveau loisir. Bonne semaine à vous tous, Chantal Doré au micro.